stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, Sophie Rosemont, Mathilde Serrel, Joseph Gosne pour parler ensemble de toute latitude. Dominique A chez Wagram, Possible de Chaton chez Arista et Cure d'Edith de Préto chez Initial Artist Services. Boris Pino. Il est à mes côtés, lui, il a un ordinateur qui marche contrairement à moi, donc il va pouvoir surveiller vos commentaires sur Facebook ou Twitter, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Notre Innocence de Wajdi Mouawad. Place à gagner pour la représentation de samedi 24 mars à 20h30 au Théâtre de la Colline à Paris. Journée internationale de la francophonie dans la dispute, avec trois albums qui chantent en français. On va ouvrir avec un auteur, compositeur, interprète qui va frapper deux fois cette année, c'est Dominique A. Il vient de sortir Toute Latitude. Il livrera un autre album, La Fragilité, au mois d'octobre. Si le prochain sera acoustique, on le sait, celui dont nous allons parler ce soir est résolument rock et parfois même électro. 12 morceaux, 43 minutes avant de débattre. Nous écoutons Corde ferme à l'abandon.
Je suis retourné haut, corde ferme à l'abandon. Je suis entré dans les tables noires, les poutres tenaient bon. Tenaient le plafond éventré, les planches d'avant-guerre, la première. Siècle des nuits. Nuit des siècles, tout était si vieux ici, depuis toujours. Si haut les arbres enserrent la ferme, si fleuri le jardin au centre de la cour, encore fleuri, comme quand des gens vivaient ici. Comme quand des gens vivaient ici. Et si haute la peur, qu'enfant, on jouait à réveiller. L'après-midi dans le grenier immense de la maison du fermier. Le fermier qui avait l'air si gentil et qui passait ses nerfs sur ses vaches, sur ses fils et sur le commis. Le commis qui vivait au-dessus de l'étable comme en 1900. Sa silhouette torse nu à la fenêtre le soir dans la lumière blanche de l'ampoule au plafond de sa chambre. Et au bout d'une allée, longeant le jardin clos derrière chez les fermiers, il y avait le château. Et les bêtes empaillées dans l'entrée bleu pâle, un renard et un cerf. Et en face, l'étang, au bout d'un champ en pente douce, comme un répit dans l'épaisseur des lieux. À l'écart, l'écurie, et ses secrets palpables et ses lignes franchies. Les non-dits enroulés dans l'obscurité des murs sales, en paquetage de ce qu'on sait, de ce qui ne se dit pas, pour toujours, et suinte de partout, et se transmet, dans un grand silence entendu. Ça puait le secret, la chair sous la contrainte, la perpétuation du mal, moisson d'éternité qu'il faut engranger, vaille que vaille. Et que ça pue, plaisait aux gosses que nous étions. C'était bien pour la peur, l'inquiétude, ceux qui montaient dans le grenier jusqu'à la maison du fermier. Ça nous électrisait. On s'emparait de ces histoires comme de poisons délectables. Ces fantômes convoqués dans un deux-pièces sombre, loué à l'année pour rien, au châtelain qu'on ne voyait jamais. Il n'y avait pas de salle de bain, juste un évier dans la cuisine, une cheminée jamais ramonée, et les chiottes en bois sur un côté de la cour. On écoutait Police. Avec sur la pochette du 45 tours un type pendu, au-dessus d'un bloc de glace à demi fondu, l'humour à l'orée des 80s, le cynisme new wave, comme une éruption hors cadre dans ces lieux sans âge, si vieux depuis toujours, confiné dans la nuit des siècles, la maison du fermier, le grand jardin clos, le grenier, le château, l'écurie, et les secrets par milliers répandus dans la cour, sans âge, débordant de partout, affreux, congestionnés. Quand je suis retourné au corps de ferme à l'abandon, la peur était intacte, les lieux criaient pitié, et même en plein jour tout hurlait, et se jetait sur vous. Je suis sorti dans l'effroi de l'étable, et j'ai fui.
Eh oui, Sophie Rosemont, les morceaux peuvent s'arrêter parfois alors que vous êtes en train de parler. C'est très mal, un premier blâme. D'ailleurs, vous commencez à nous parler de Dominica. Allez Sophie, courage, ça va bien se passer.
C'était pas exactement ce que j'avais prévu, mais d'accord. Toute l'attitude, donc.
Oui.
11e album.
Rouge.
Ah oui, non mais c'est la chaleur. C'est la chaleur de ce studio, là, qui me monte à la tête et aux joues. Toute l'attitude, donc. 11e album de Dominica, 25 ans déjà de carrière, et une voix qui est quand même étonnamment, étrangement, c'est presque cosmique, une voix qui ne bouge pas, qui reste toujours aussi belle, aussi dense, aussi sensuelle aussi. Là, on le voit d'ailleurs sur ce morceau qui n'est pas sensuel lui, mais la voix de Dominica, lui aussi, nous réchauffe le cœur et les tripes. En tout cas, voilà, c'est toute l'attitude, c'est ça. C'est l'art des chansons qui ne cesse de se dévoiler, écoute après écoute. On ressent quelque chose, on va dire, une certaine mélancolie en écoutant tel titre. On le réécoute deux jours après, on se sent euphorique. C'est une espèce de don qu'il a de nous transporter dans différentes sensations et différents ressentis. Et puis aussi ce don d'être entre la poésie, la littérature, le rock, entre l'électricité, l'électronique, entre le réalisme et la poésie, voire la fantasmagorie. Et à la croisée de tous ces genres, il cultive en tout cas la porosité des genres, Dominica. Il survole de son talent, tranquillement. C'est assez brillant. C'est vrai que c'est un album que j'ai trouvé assez brillant, assez beau. Et il y a deux titres qui m'ont beaucoup plu, parce que les thématiques pour moi sont assez casse-gueule. Elles parlent de la cause animale, qui moi est une cause à titre personnel qui me touche beaucoup. Donc il y a la mort d'un oiseau et se décentrer. Et souvent on critique les artistes ou les chanteurs qui parlent des animaux, faut pas les tuer, faut voir pas les manger, on est trop éloigné de la nature. Tout ça, c'est ce qu'il raconte Dominica. Mmh. Sauf que là, il le raconte avec une telle élégance, qui est peut-être le mot qui pourrait le définir, l'élégance, que je pense que ça peut être un vrai plaidoyer, un vrai manifeste pour ceux qui y sont complètement insensibles. Un titre comme « La mort d'un oiseau », où il explique de façon toute simple que oui, bah, ramasser un oiseau et sentir son cœur s'arrêter quand on l'a dans ses mains, enfin voilà, oui, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas rien, dit-il. C'est très simple, ça va droit au cœur sans être pathos. Et voilà, donc oui, en gros, j'ai aimé cet album, je crois, maintenant que je m'en rends compte.
On a cru comprendre. Par contre, Joseph Gauss fait une drôle de tête depuis tout à l'heure, je me demande... Dominica,
alors...
Et cet album, toute
Dominica,
l'attitude.
Cet album, oui. Moi, de manière générale, j'aimais Dominica, sans y être forcément très sensible, sans y avoir jamais été trop sensible, en fait. Quand j'écoute ce disque, je suis un peu... Je le trouve un peu... un peu ambivalent ce disque. Déjà dans ce qui est dit et la façon de le dire surtout, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui utilise une parole, des mots, des phrases qui viennent d'une autre époque, en fait, d'un autre moment. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui vient des années 90, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très décalé par rapport à aujourd'hui. C'est vraiment l'impression, la première impression que j'ai eue en écoutant le disque. La deuxième, c'est que j'ai aussi eu l'impression d'entendre quelqu'un qui fait un bilan, finalement, de ce qu'il est et de ce qu'il a été. Un bilan assez triste. Et parce qu'il y a comme une... comme l'ombre d'une défaite, un peu. J'ai senti le disque un peu, le disque de quelqu'un d'un peu abattu. Et il y a un pont assez évident dans le morceau qui s'appelle La mort d'un oiseau, avec évidemment son premier morceau, le morceau le plus connu de ses débuts, qui était Le courage des oiseaux. Et il y a un peu comme une peinture de lui-même en train de dépérir. J'ai beaucoup ressenti ça dans le disque. Ça m'a beaucoup touché de ce point de vue-là. Et en même temps, j'avais l'impression de voir quelqu'un d'un peu déconnecté avec le réel. En tout cas, avec la musique qui est en train de se faire aujourd'hui. Et notamment, j'ai beaucoup lu de choses sur ce disque, de choses qui disent il utilise une boîte à rythme, c'est fait plus ou moins à la maison, il y a l'électronique, etc. D'accord, mais et alors? Il y a quelque chose d'un peu passé à mon sens dans cette idée que la boîte à rythme c'est formidable, etc. Il y a énormément de disques qui sont faits à la maison avec des boîtes à rythme depuis 35 ans. Il y a ça n'apporte pas grand chose au débat et ça me touche pas tant que ça. Alors je vais peut-être un peu nuancer mon propos parce que je ne suis pas aussi radical que ça peut le paraître à m'entendre. Le disque, j'ai l'impression, évolue plutôt bien. En tout cas, il me plaît davantage vers sa fin. Et j'ai d'ailleurs l'impression qu'il n'est pas si bien agencé que cela, parce que je trouve que la fin, le dernier morceau notamment, et aussi celui qu'on a entendu, mais le dernier morceau notamment, Le reflet, je trouve que c'est là où ça décolle vraiment. C'est-à-dire que dans Le reflet, il y a quelque chose qui est absolument différent du reste. Il y a quelque chose de l'ordre des textures, de même de l'aura de la voix, de l'aura des mots qui se dégage de ce qui était là avant, qui était un peu trop direct. Et là, d'un coup, ça prend autre chose. Et j'ai l'impression que ça annonce peut-être cet autre disque dont tout le monde parle, mais que personne n'a entendu. Donc voilà, je reste un peu ambivalent sur cet album.
Mathilde Serrel, toute latitude pour vous.
Merci Arnaud Laporte. Il faut rappeler que le jumeau d'Arnaud Laporte, c'est Dominica.
Et inversement.
Et inversement, évidemment. Moi, alors, toute latitude, je la prends. Toute latitude, c'est le titre du disque, c'est aussi la partie inaugurale du disque. Et je suis assez d'accord avec le raisonnement de Joseph Ghosn. Je trouve qu'on gagne en puissance au fur et à mesure du disque. Je ne sais pas si c'était une mauvaise idée d'agencement. Au contraire, moi, j'ai l'impression de progresser dans l'intensité du disque. Et je suis heureuse de le ressentir et de me sentir aussi portée vers le disque qui arrivera à l'automne, qui s'appelle La Fragilité. Je pense en effet que le dernier titre, Le reflet, c'est un pas vers ce disque d'après. Le titre qu'on a entendu, Corps de ferme à l'abandon, pour moi, c'est vraiment une page effectivement de littérature, de poésie, comme Dominica s'est les écrit. Il a écrit deux romans quand même, entre-temps, il faut le dire. Et aussi, c'est l'incarnation du passage de Dominica à, on va dire, l'écriture carte postale, ce serait pas gentil, mais c'est vrai que quand on pense à Eleor, le précédent disque, il l'a dit lui-même, il avait cette technique assez impressionniste, en fait, de rentrer dans les lieux, voilà, de partir sur ses ressentis et de laisser un petit peu le rebond des mots, le fil de la musique se faire autour de ça. C'était comme ça qu'il construisait ses chansons. Et là, ce que je trouve très fort, c'est que il essaye complètement autre chose. Il se met au bord, de Tanzbar, donc le nom de cette boîte à rythme allemande qu'il achète. Il se met au bord de ça, il se dit qu'est-ce que je vais fabriquer. Il se remet, je trouve, énormément en question par rapport à ses méthodes d'écriture précédentes. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un vrai raconteur d'histoire. Ce qui n'était pas le cas, justement, de ces paysages impressionnistes d'Eléor. Et notamment dans Corps de ferme à l'abandon. Pour moi, on est chez Simon Johannin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce magnifique premier roman, L'été des charognes, la ruralité transpirante,
terrible,
inquiétante.
Roman.
Mais je veux dire, le texte de Corps de ferme à l'abandon, c'est d'une splendeur. C'est inquiétant. Il l'a dit comme un Kubrick aussi, qu'il a un petit peu travaillé travaillé sur ce disque. Et il y a, y a des images et des violences, tout ça avec une voix effectivement qui a l'air d'avoir 25 ans. Et quand on parlait des années 90 tout à l'heure, pour moi, Dominika, il ressemble dans ce disque aussi un petit peu à ce titre qui m'a, moi, bouleversée pour toujours, qui est Passé l'hiver sur la Fossette. Il est dans sa chambre, il enregistre avec un petit CD, un petit synthétiseur qui a des, vous savez, des petits rythmes préenregistrés. Mmh. Qu'il va épuiser en fait sur ce disque La Fossette qui sort en 1991. D'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition à Nantes qui recompose un peu la chambre de Dominika dans la conception de ce disque. Et moi, je retrouve en fait cette espèce de voix qui part de travers, cette fragilité, cette dureté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? La question est posée dans Passé l'hiver. Et je trouve que c'est ce Dominika, donc peut-être des années 90 qui revient, donc peut-être. C'est ça qu'on entend. Et par ailleurs, je dirais que si Fauve savait écrire, ça donnerait peut-être ça aussi. Donc c'est quand même un peu contemporain.
Y a du chemin, pardon. C'est un avis tout personnel. C'est vrai que c'était difficile de choisir un morceau pour cet album de Dominika. C'est toujours compliqué dans cette émission. On passe un morceau en entier, mais ça ne donne pas toujours un juste reflet des disques. On en parle régulièrement. Alors, le fait qu'on ait choisi le seul morceau en spoken word, c'est intéressant aussi parce qu'au départ, il devait faire 4 disques, Dominika, cette année.
Oui,
dont un de spoken word et un noisy. Bon, il y a le seul spoken word qui reste, c'est le morceau qu'on a entendu, Corps de ferme à l'abandon, dont vous avez très bien parlé. Mathilde, moi, il y a beaucoup d'autres morceaux que j'aime dans ce disque, mais je crois que c'était, enfin, je trouve que c'était très difficile de succéder à Léor, qui est pour moi un disque parfait. Je pense que, enfin, il n'y a aucune chanson d'Léor que je ne trouve pas très, très belle. C'est vraiment un bijou. Et de fait, il me semble qu'il propose en effet autre chose. Alors, je n'ai pas senti cette. Ce bilan dépressif ressenti par Joseph Ghost, ça respire pas, c'est pas Youp la boum et je chante de soir au matin, mais il y a quand même quelque chose qui peut être un regard d'un homme qui aura 50 ans cette année, voilà, c'est peut-être une sorte de bilan d'étape, mais lorsque nous vivions ensemble ou Enfants de la plage, sont des chansons effectivement qui regardent du côté du passé, avec, mais il l'a toujours fait, il le fait depuis peut-être l'âge qu'il a aujourd'hui, Joseph.
Mais une chanson justement comme Lorsque nous vivions ensemble, parce qu'il ne fait pas la liaison, d'ailleurs c'est assez étonnant, et du coup ça marque quelque chose d'un peu presque maniériste comme ça, qui parfois moi me gêne, mais bon.
J'adore.
Oui, voilà.
C'est bon, logique,
mais voilà,
c'est l'un ou l'autre.
Évidemment. Évidemment. Non, une chanson comme celle-là, et la chanson sur les oiseaux, et même d'ailleurs la chanson sur se décentrer, j'ai vraiment l'impression qu'il fait un bilan assez négatif. D'ailleurs, je crois que dans une interview, il disait, il regrettait le fait de, par exemple, de moins jouer, par exemple, dans les festivals, dans l'été qui vient. C'est-à-dire que il y a comme une déconnexion, et on sent que sans doute le public a changé, que les gens n'écoutent plus tellement cette musique-là, et que lui fait un bilan un peu difficile.
Ben, c'est-à-dire que les programmateurs des gros festivals n'écoutent plus ça, parce que c'est aussi pour moi, c'est un musicien de stade, hein, Dominika. Il y a des chansons qui ferait se lever des dizaines de milliers de spectateurs. Moi, j'ai pas de doute là-dessus.
Sans doute,
mais on voit sur scène. Hein.
J'ai l'impression effectivement d'entendre quelqu'un qui fait du rock comme on en faisait il y a 20 ans en fait. Et si on prend un groupe qui a commencé un peu dans la même plus un peu avant, mais un peu dans ces mêmes eaux, qui vient de sortir un album, par exemple Yo La Tengo. Le propos est vraiment différent. La musique est beaucoup plus recherchée. Il y a vraiment beaucoup plus d'innovation et beaucoup plus de latitude dans la recherche. Alors que là, j'ai vraiment l'impression musicalement d'entendre quelque chose qui est quand même daté. Alors évidemment, ces mots, sa façon d'écrire font le sel de quelque chose. Mais moi, ça me touche très très peu.
Ça vous touche très peu. Daté, c'est une autre question. Mathilde Serrel et Sophie Rosemont. Sophie, pour
allez,
commencer.
Sophie, d'abord. Un mot, nous ne serons jamais légers, c'est ce qu'il dit dans Le Reflet. Donc effectivement, il y a une espèce de pesanteur, mais qui va finalement avec le fait qu'il ait traversé des époques, qu'on est dans une époque finalement beaucoup moins légère du point de vue de l'environnement. Une fois encore, j'y reviens. Je crois que c'est peut-être ça qui apporte cette noirceur à cet album. Et quant au fait de moins jouer, et quand Joseph parlait d'espèces de regrets, de la tristesse un peu finalement de Dominika, je crois qu'elle renvoie directement au choix qu'il avait fait après son succès des débuts, un peu après La Fossette, de faire cet album radical qui s'appelait Remuer, qui lui a fait perdre une partie de son public. Ensuite, il a joué dans des salles plus ou moins vides pendant quelques années avant de revenir et là d'avoir ce qu'on appelle une fanbase fidèle. Mais il est vrai que est-ce qu'il n'y aurait pas un petit moment où il s'est dit: ai-je eu raison de fermer la porte à ce moment-là ou pas? Donc je ne sais pas.
Mathilde Sérène.
Moi, justement, par rapport à ce que disait Sophie tout à l'heure, ce que je trouve très contemporain, c'est que le monde du XXIe siècle est là avec des mots comme jamais on les avait trouvés. Je suis totalement d'accord que sur la chanson se décentrer, l'idée d'une nouvelle révolution copernicienne où en fait on avait donc cette idée que la Terre était pas au centre de l'univers et que maintenant il faut se dire que l'homme n'est pas au centre de la Terre, on doit se décentrer, plus tout repenser comme étant voilà à notre disposition, conçu autour et pour nous, hein. Il parle de, c'est une sorte d'anthroposceptisme et puis de sale gosse dérégulé. Moi je trouve que cette façon d'aborder toutes ces thématiques qu'on a beau croiser effectivement dans des articles, dans des tribunes, avec de la poésie, avec pas d'idéologie, mais juste la sensibilité de Dominica, il y a quelque chose de très contemporain et d'éternel. Et pour moi, parvenir à mettre des mots sur cette ère du temps-là, c'est très fort et c'est pas du tout daté.
Joseph Gross.
Ben, moi, je trouve que justement, la façon de parler de ça, notamment les premières paroles de cette chanson, m'ont vraiment fait penser à une poésie un peu de bas étage. Et quand on s'attaque à cette thématique là, il y a une chanson des Smiths qui s'appelle Meat is Murder qui date d'il y a 30 ans et tout était déjà là avec une vraie puissance et une vraie force. Donc on peut difficilement passer après ça et avec les mots qu'il a.
Je le trouve Morrissey aussi là tout de suite.
Non mais oui mais à un moment il faut comparer les choses avec
passer en français aussi. Mais peut-être qu'il fallait qu'elle existe en français.
Mais justement il y a d'autres gens qui aujourd'hui je pense passent en français de manière bien plus forte.
En tout cas, si juste l'album Vers les lueurs de Dominica, il s'était essayé un petit peu à cette critique sociale de la France, de supermarchés, etc., de la laideur qui avait envahi le paysage. Et je trouvais qu'il était à ce moment-là un peu prosaïque, justement, dans sa façon de voir les choses. Et là, on est beaucoup plus de travers, on a beaucoup plus de poésie. Donc, en tout cas, par rapport à lui-même, il est plus contemporain.
Oui, mais se décentrer, pour revenir sur cette question-là et cette chanson-là, moi, la première fois que je l'ai entendue, j'ai eu un peu de mal à déglutir. Mmh. Et je pense qu'il y a une progression, une montée en puissance dans le morceau et que ce refrain, il est absolument imparable. Et cette sonorité, ces mélopées un peu rabisantes du refrain devraient, comme à moi, vous faire beaucoup d'effet, Joseph.
Je réécouterai.
Méditerranéen non, que mais, nous sommes, mais pour tout dire. Et vraiment, moi, je pense qu'effectivement, ça joue sur une espèce de banalité absolue, dissertation de première, pour aller ailleurs, quoi. Enfin, il y a quand même une progression, une finesse d'écriture qui est, bon, à laquelle vous n'avez pas été sensé.
Non, j'ai pas adhéré parce que
mais
je trouve
bon,
que.
Mais bon, Fral, la deuxième ronde serait dite Préto tout à l'heure, donc c'est pas grave.
Tout à fait.
Si. Ah ben oui, j'ai pris des notes pour envoyer quelques arguments. Bon, pour l'instant, nous parlions de Dominica et de Toute Latitude, le premier des deux albums de 2018. Vous ferez la deuxième mi-temps, on l'espère.
Mais avec grand plaisir.
On espère être là à la rentrée. Toute Latitude, donc la tournée des dans 3 jours, le 24 mars à La Rochelle. Il y aura beaucoup de dates à Andincourt, à Angoulême, à Lyon, à Nantes, évidemment, en Stéréolux, le 4 avril, à domicile pour Dominica, qui y réside désormais. Il y aura Bordeaux, il y aura Lille, il y aura Bruxelles, et puis un week-end dominical à la Philharmonie de Paris, le 14 avril, un samedi à 20h, le côté électrique, et le lendemain, dimanche, à la Cité de la Musique, à 19h, le côté acoustique. Merci, non, parce que c'est pas le mot qui était... On ira ensemble ? Ah, d'accord. Puis après, Rouen, Toulouse, Montpellier, Sifour-les-Plages.
Et vous irez ensemble aussi.
Peut-être. Ça finit, j'irai plutôt avec Philippe Azoury du côté de Montpellier, mais ça c'est une autre histoire. Et puis il y aura Brest, et puis il y aura Strasbourg. Bref, beaucoup de dates pour donner à entendre les chansons de ce nouvel album et sans doute quand même quelques autres à suivre dans la dispute Chaton et Eddie de Préto.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Bon, il y avait quand même quelques commentaires, Maurice Pino, sur Dominica. J'ai oublié, du coup, dans le feu de l'action, il m'a énervé, Joseph, il m'a énervé, que je vous dise.
Oui, de beaux commentaires sur Twitter. Nicolas Tité parle de l'un des meilleurs disques français de l'année. Et un mot de Sylvestre Brodziak, le Dominique A nouveau est arrivé et c'est une grande cuvée.
Bon, voilà. Passons à Chaton. Chaton, on a diffusé déjà un morceau de Chaton il y a quelques semaines. Le morceau s'appelle Poésie, il faisait partie d'une compilation de La Souterraine. Ainsi, repéré Chaton s'est vu offrir un contrat chez Arista, label des émergents, chez Sony, et sort donc ce premier album intitulé Possible. Nous écoutons d'ailleurs le morceau qui l'ouvre, me semble-t-il, J'attends en bas.
Je n'ai... n'appellerai plus jamais pour les anniversaires. Je sais pas quoi sauver de ma peau, même les fronts de mer. Méfie à ta quatre mains et tout l'amour de la chair ne m'empêcheront plus jamais de pleurer ma mère. J'ai beau faire des romans de mes putains de concerts, je tourne en rond, la vie c'est l'apéro de l'enfer. Je sais pas depuis combien de temps je suis à l'heure d'y faire. Heureusement y'a Lola, Meka et Benou qui gèrent. Mais y'a ce truc en moi qui tourne, tourne à l'envers. Je suis déréglé comme un coucou, je suis à la frontière. Je voulais juste un câlin et voyager en première. Le reste je m'en bats les couilles, je suis pas leur père. J'ai jamais aimé l'argent, je suis pas propriétaire. Je voulais juste attraper le vent dans mon tupperware. Je n'appellerai plus jamais pour les anniversaires. Je sais pas quoi sauver de ma peau, je suis bien bien du père. Un câlin, une vague, une Pauline, une blague. J'attends en bas un email de mon frère, la fierté de mon père. J'attends en bas, j'ai fait une crise de panique à Sanary-sur-Mer. Le médecin m'a dit Simon, tu fais tout à l'envers. Quand tu les entends parler, fais tes billets verts. Je comprends pas pourquoi t'essayes encore de leur plaire. J'ai saigné toutes ces lignes en quelques après-midi. J'ai appelé mes copines Sébastien et Jérémy. Ils m'ont dit ça fait longtemps qu'on t'avait plus trop vu. Dis c'était comment tout au fond, est-ce que ça t'a plu? Un câlin, une vague, une Pauline, une blague. J'attends en bas un email de mon frère, la fierté de mon père. J'attends en bas, en bas, en bas. J'attends en bas, en bas. Je n'appellerai plus jamais pour les anniversaires. Quoi sauver de ma peau ni de ma carrière. Ma collection de pins, mes coquillettes au gruyère. Sois gentil si tu veux me parler, appelle mon frère. La terre, moi je voulais la dévorer tout entière. J'en ai fait la moitié et je suis pas vraiment plus fier. Le succès ça n'arrange rien à l'intérieur. Je sais plus si je veux crever en famille ou au 20h.
Ah ben voilà, on aura entendu Mathilde Serrel chanter. La prochaine ouverture de micro, ce sera pour vous, hein, Joseph.
Je vais essayer,
à la fin du morceau d'Élie Préto, remarquez, on verra pas la différence
reprendre du 2015,
au niveau de la tessiture. Donc là, nous écoutions Chaton et un peu de Mathilde Serrel, quand même. Et du coup, c'est Joseph Gosse qui va commencer, qui nous avait dit son amour total pour cette compile de La Souterraine.
Oui, c'était
le coup de cœur.
C'était un coup de cœur, la compile s'appelait Ouf. Et c'est vrai que le morceau de Chaton, Poésie, était...
Oufissime.
C'est une vraie perle au milieu de tous les autres. Et donc du coup j'ai guetté cet album, le premier.
Vous avez guetté le chaton.
J'ai guetté le chaton.
Dire plein
j'ai
de trucs comme chaton, ça va être bien.
Le chaton est arrivé, je l'attendais pas par la gouttière, etc. Non, j'étais très agréablement surpris par l'album lui-même, qui est dans la même veine que ce morceau, que Poésie, mais qui s'écoute pour moi vraiment comme le journal intime de quelqu'un qui a 35 ans, qui vit une vie entre la boboisation qu'il déteste et des souvenirs de famille assez durs et pénibles et dont il arrive à faire quelque chose. Je l'ai rencontré, interviewé, et il m'a raconté un peu. Enfin, et ce qui est assez étonnant, c'est que ce qu'il raconte en interview, c'est exactement ce qu'il raconte dans le disque. C'est-à-dire que sa vie, c'est exactement ce qu'il met dans son disque. Il parle de sa mère, elle est là dans le morceau qu'on vient d'écouter. Il parle de sa compagne qui s'appelle Lola, elle est dans le disque. Tout est vraiment retranscrit de manière très fidèle. Et il y a quelque chose comme une espèce de flux de pensée qu'il a enregistré dans son ordinateur, de manière complètement isolée chez lui dans un petit appartement dans le 18e. Mais il y a quelque chose qui marche, et ça marche pourquoi ? Parce que il s'évertue à à vraiment construire musicalement tout ce qui entoure son propos. C'est-à-dire, sa voix passe par de l'autotune, qu'il utilise comme un instrument et dont il dit qu'il le mène vers des découvertes harmoniques ou mélodiques. Effectivement, on l'entend tout au long du disque et ça va vers des choses qui sont assez touchantes, notamment la voix parfois elle déraille un peu et puis ça le replace, etc. Et puis il y a sa façon d'asseoir les rythmiques qui sont très inspirées par le reggae, notamment sur le morceau Poésie qui est un morceau de reggae un peu électronique.
Celui qu'on vient d'entendre aussi, hein, j'attends en bas.
Tout à fait. Alors celui qu'on vient d'entendre, je le trouve beaucoup plus un peu plus rock entre guillemets que reggae, puisqu'il a une espèce de rythmique au début dès le départ qui moi me rappelle vraiment la façon dont Suicide pouvait reprendre Elvis Presley, c'est-à-dire quelque chose d'assez minimal, très très proche de l'os, et avec la voix qui vient par-dessus et qui vous saisit immédiatement et qui vous mène dans l'histoire. Donc moi c'est un disque que j'ai vraiment trouvé très beau, dans lequel je suis vraiment rentré. Il y a des moments, et c'est ça aussi qui m'intéresse aujourd'hui dans toute cette génération là. Même si Eddie De Preto est plus jeune, on en parlera tout à l'heure, c'est le mélange des genres. Le mélange des genres, ce côté finalement assez libre et libéré de la parole, de ce qu'on raconte, de la façon de décrire le quotidien et finalement de parler d'un quotidien assez banal et somme toute assez sordide. C'est-à-dire que quand il parle du PL qu'il n'a pas, de son compte en banque, de celui de sa copine qui est dans le rouge à 3-0, ben en fait c'est des choses que j'ai l'impression que tout le monde vit, ou en tout cas par lesquelles les gens peuvent passer. Mais il arrive à en faire une sorte de poésie assez touchante. L'album est plutôt court à mon sens et je l'ai écouté, réécouté, je rentre vraiment bien dedans. Voilà, c'est bon, c'est un des jolis disques. Alors je sais pas s'il va continuer, parce qu'il a une carrière auparavant qui s'est pas très bien passée. Je sais pas s'il va continuer dans cette veine là, mais en tout cas là pour le moment il saisit vraiment quelque chose de l'époque. Et de manière assez originale.
Enfin, les brièvetés des albums sont souvent des qualités. On a souvent parlé ici des albums beaucoup trop longs. On ne citera plus de noms, mais parce qu'on n'a pas le temps, justement. Mathilde Serren et Chaton.
Chaton m'a tout de suite plu. Déjà, il a un physique adorable, quand même. Il a des longs cheveux bouclés avec une barbe. Il ressemble absolument pas à un chaton, finalement, mais une sorte de Demis Roussos s'apprivoisé et amaigri, chaton. Il a, à mon avis...
Un rasta blanc, quand même, aussi.
Et un rasta blanc aussi. Il a, à mon avis, transmis cette idée que derrière chaque album de Cador de la variété se cache peut-être un petit chaton sensible. Puisque c'est vrai qu'il avait composé pour Natacha Saint-Pierre, Amel Bent,
Jennifer,
voilà, il raconte qu'à un moment il livre un disque, on lui dit bah il y a tout à refaire mais sans toi, et c'est à ce moment-là il se dit un petit peu qu'il est au fond émotionnellement et financièrement, et donc il va se mettre au bord de lui-même, il va composer ce disque où je trouve que il fait vraiment de l'autotune un vrai véritable instrument poétique. On le savait un petit peu avec Booba notamment, ou avec PNL. Moi j'entends le dernier album de Booba dans ce disque là, ce titre de Booba sur le rêve, et je trouve qu'on ressent le potentiel poétique de l'autotune qui n'avait pas été porté aussi loin. Et c'est lui, je trouve, qui emmène vraiment cette machine dans une utilité poétique, qui en fait un usage jusqu'au boutiste, très contemporain, intimiste et lyrique. Je trouve qu'il y a aussi presque un art poétique qui est déposé dans le dernier titre de Chaton. Ça s'appelle Chanson démodée, pour résonner avec ce que je disais au début, donc qui raconte ce que c'est que de vouloir faire de la musique quand on vous demande de sucrer davantage vos mélodies, quand on rêve de faire de la scène et qu'on se dit que finalement on est passé un petit peu à côté de soi, qu'on tente pour une dernière fois d'écrire, on essaye de retirer le décor, la coupe est déjà pleine de chansons démodées et pourtant on essaye d'en verser une dernière. Et je trouve que c'est à la fois sa vie du quotidien, on l'a beaucoup dit, de parisien, etc., mais c'est aussi la vie d'un compositeur aujourd'hui, des enjeux et de presque, moi ça me rappelle au XVIe siècle à ce que sont que les grandes crises d'inspiration chez les Dubélé ou chez les Ronsard, de savoir mettre en musique ce que c'est de pas arriver à écrire, ou en tout cas d'essayer de chercher sa voix et de raconter comme on la cherche à travers un disque. Et moi je trouve que c'est ça la force du disque de Chaton, et de vraiment, à mon avis, vers la fin du disque, un petit peu comme avec Dominica, comprendre qu'il le trouve presque, parce que sur des titres comme Alex qui sont chantés avec cette voix. Chez Erik Satie, il y avait beaucoup d'intentions, vous savez, dans les jeux qui étaient donnés. On disait du bout de la pensée, par exemple, dans toutes ces ordres de didascalie qui accompagnent les partitions. Moi, j'ai l'impression que c'est du bout de la voix avec Chaton. Quand on écoute Alex, c'est vraiment une voix qui va presque tomber de l'autre côté de la falaise. Et cette intention-là, très fine, il la trouve tout à la fin du disque. Donc, il y a un peu ce miracle de la résurrection de Chaton qu'on suit comme une histoire.
Chaton, qui rime avec Sophie Rosemont.
Oui, c'est vrai, moi aussi je suis un chaton, d'ailleurs. En tout cas, là on est tous d'accord sur le fait que l'écriture de Chaton est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans l'album, car il est vrai, et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu arrêté au début, c'est l'aspect très monotone, qui est absolument volontaire, hein, de ce disque, parce qu'on est quand même quasiment sur le même type de rythmique, les influences sont à peu près les mêmes, mais cette écriture que je trouve très forte, évidemment, il dit plus que 100% autobiographique, assez touchante, mais une fois encore, sans pathos, comme j'en parlais tout à l'heure avec Dominika, chacun sa manœuvre. Et lui, sa manœuvre, pour moi, c'est l'autotune. Mmh. Alors que l'autotune peut être un cache-misère pour des textes à la puissance absente de certains groupes qu'on cite souvent. On compare à PNL, mais enfin, il n'y a aucun rapport entre la richesse des textes de PNL et celle de Chaton. Chaton, il y a à la fois une certaine poésie héritée de la tradition française, ce que vient de dire Mathilde Serrel, et aussi quelque chose qui est lié à la belle chanson française, tendance variété. Moi, j'ai beaucoup pensé à Souchon. Souchon a chanté l'ultra-moderne solitude. Et là, avec Chaton, elle est complètement réactualisée en 2018, cette ultra-moderne solitude de l'urbain, j'allais dire parisien, mais pas seulement, son PEL vide, ses angoisses professionnelles, son statut éventuellement de freelance qu'on utilise et qu'on jette, ses amours déçus, ses attentes en bas de son ex, enfin tout ça, ça nous parle extrêmement, c'est notre quotidien, c'est notre vécu, et c'est ce que Souchon chantait et chante encore d'ailleurs, et c'est ce que Chaton s'est approprié avec cette espèce de texture sonore entre le reggae et le dub. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dub qui est convoqué dans cet album, et je trouve ça assez intelligent. Et je crois que si Joseph Goss a parlé de rock, c'est que parfois on pourrait se dire, bon, si Joe Strummer vivait maintenant un peu plus jeune et dans d'autres conditions, il aurait pu peut-être chanter ce genre de titre. Mais et puis il y a aussi son amour fou pour Israel Vibration qui se ressent. Et ça, c'est étonnant. Je trouve que c'est une influence qui est étonnante dans cette espèce de sphère un peu branchée, parce que Chaton, c'est branché, mais ce n'est pas snob.
La réponse à Israel Vibration, c'est simplement que c'est le premier concert qu'il a vu en fait, et qui est le concert qui l'a marqué, où il s'est dit je veux aussi être sur scène, et je veux utiliser la scène comme un média entre moi et les gens, parce que je suis un garçon timide en fait. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est aussi toujours l'ironie ou l'ambivalence dans les textes, et notamment cette phrase que je trouve merveilleuse, qui est « Au bord de la faillite, j'écris des poésies qui raconte tout l'album en fait, et exactement tout ce qu'il fait, c'est-à-dire on ne sait pas s'il est vraiment au bord de la faillite, s'il écrit vraiment des poésies, mais voilà, tout est résumé par ça. C'est ça qui est assez beau chez lui.
Un commentaire, Boris Pinault, à l'instant.
Oui, un commentaire de LM sur Twitter qui fait une allergie à la dépression lénifiante de Chaton, une dépression bien pensante et au vocodeur, à l'autotune du coup, peut-être pour repréciser.
Hashtag au secours, hein, je lis par-dessus votre épaule. Et ben moi, je me surprends à aimer de plus en plus cet album. Je ne savais pas si j'allais aimer l'album dans sa durée. J'avais aimé Poésie, J'attends en bas, ça marche tout de suite. En plus, ça ouvre l'album, ce qui est quand même bien fait. Et en fait, je découvre des morceaux au fur et à mesure. Je me rends compte, en l'ayant écouté maintenant un certain nombre de fois, il y a des chansons sur lesquelles j'avais pas imprimé tout de suite. Et Alex, vous en parliez aussi, c'était aussi une des propositions pour qu'on écoute dans cette émission. Et c'est un morceau qui amène quand même ailleurs, parce que pour celles et ceux qui connaissent Poésie, qui viennent d'entendre là, J'attends en bas, ils peuvent se dire, bon, ça... C'est un peu tout pareil, sauf que c'est pas du tout le cas. Non. Et notamment, Alex nous envoie vraiment dans une autre dimension, à la fois d'écriture musicale, mais aussi d'écriture tout court. Moi, je suis très sensible à ce petit chaton, qui est un chaton non violent, lui, hein, contrairement à certains autres. Encore un mot, Mathilde Serrel.
Mais... On le disait, il y a effectivement ce passage, c'est ça que vous sentez dans Alex et dans Chanson démodée, ce passage d'un chaton vers sa nouvelle vie.
Ouais.
Et il y a aussi, à mon avis, peut-être qu'en ce moment on en parle beaucoup avec un livre sur la virilité, vous savez, un essai qui circule sur ce mythe de la virilité, au sens où c'est une virilité qui est difficile parce qu'elle a été meurtrière, elle a empêché les uns et les autres d'exprimer leurs sentiments, leur sensibilité. Mmh. On se souvient de Emma Watson, He for She, en disant j'ai tellement d'amis masculins qui ont souffert de ça. Je trouve que voilà, Chaton entre aussi avec, j'aimais bien le titre des un rock, toute griffe rentrée dans cette catégorie d'émotions comme ça, de non-virilité, en tout cas en dehors des mythes et des codes. On n'a pas d'argent, on n'a pas de puissance et on a tout à réinventer, à essayer.
On veut dire que ça va peut plaire à Éric Zemmour, je pense, cet album de Chaton.
C'est pas un album masculiniste,
résumer.
Non.
On
c'est
est d'accord. Chaton, le disque s'appelle Possible, il est sorti chez Arista. Les prochains concerts de Chaton, le prochain, c'est jeudi soir à Paris, à la Maroquinerie. Ensuite, le 23, sera Marseille. Le 24, ce sera Lyon. On passe au mois d'avril, le 6 à Metz. Le 7, Boulogne-Billancourt. Le 4 mai à Bruxelles. Puis il y aura Brétigny-sur-Orge, Laval, Comines et Namur. Là, on est carrément au mois d'août pour Chaton.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Troisième sujet, cette dispute musique 100% chanson française aujourd'hui avec Élie de Préto, nouvelle coqueluche des médias qui a remporté le prix du Printemps de Bourges 2017, qui avait sorti un 4 titres en octobre dernier et qui débarque cette fois avec un premier album intitulé Cure. On entend Jimmy.
Jimmy, Jimmy, jamais. Jimmy, Jimmy, jamais. Jimmy, Jimmy, jamais. Jimmy, Jimmy, jamais. Je n'aurais pensé que l'on serait si proche. J'ai pas bien vu l'été, la neige était précoce. J'ai pas mal remonté mes dimanches à la torche. Des chiffres en tes textos qui avaient bien trop d'accroche. Finis par être accro, je tente même le divorce. Mon manteau sur le dos, des gouttes de sang en poche. Des goûts devant cette porte t'amènent une sorte de beau. Tu n'oublies jamais le coche pour soigner mes bobos. Jimmy, Jimmy, j'avais. Jimmy, Jimmy, j'avais. Jimmy, Jimmy, j'avais. Jimmy, Jimmy, j'avais. J'avais trop peu de force pour encore résister. Tu arrivais le torse, gonflé comme un guerrier. Avec ton audace folle, ton petit sourire en biais. Tu viens comme pour me sauver, surtout me délivrer. Ce qui sent encore le chaud de ton intimité. J'étais tout excité par ce paquet épais. Pour quelques billets prêts, t'en as toujours assez. Tant pis si ça me fait les traits. De toute façon je te rappellerai. Mais Jimmy, Jimmy, j'avoue. Jimmy, Jimmy, j'avoue. Jimmy, Jimmy, j'avoue. Jimmy, Jimmy, j'avoue. J'avoue que dans la nuit je ne te loupe jamais. Ta vive moto inouïe. Février, la soirée, même aux heures de l'oubli. T'arrives vite en avalanche sur la pente de pluie. T'auras toujours pas de blanche, tu relances la musique. Tu ressuscites mes danses, t'amènes tous mes délices. Sur un grand plateau d'argent, tu traverses les périphes. Pour sauver mes urgences, au rythme de tes périples, je suis ton allégeance. Jimmy, Jimmy, j'étais. Jimmy, Jimmy, j'étais. Jimmy, Jimmy, j'étais. Jimmy, Jimmy, j'étais. J'étais beaucoup trop deck. Je pensais que t'allais traîner. Je m'imaginais tandem. T'es passé comme tempête. T'empêche toujours la fête. Dans ma cage d'escalier, ton doux parfum diesel. Oui, je le reconnaîtrais parmi toutes ces paillettes que tu laisses s'envoler. Que peut-être même tu perds avec d'autres condamnés. T'inquiète pas, je te surveille. Au combien je t'attendrai. T'es déjà dans mes veines. Moi, je te veux dans mes plaies. Jimmy, Jimmy, j'arrête. Jimmy, Jimmy, j'arrête. Jimmy, Jimmy, j'arrête. Jimmy, Jimmy, jamais. Je n'aurais pensé que
que l'on serait si proche. J'ai jamais vu l'été, ta neige était féroce.
Je ne dirai rien.
Vous chantez pas, Joseph. Vous n'avez pas relevé le défi. Vous auriez pu chanter avec Stromae, pardon, avec Edith de Préto.
Je vais chanter la balade d'entendre de
Jimmy. Alors, Jimmy, Edith de Préto, il est partout, il sera même couverture de Grazia Homme, vous m'avez montré
mais
ça.
Oui, dans à l'instant. 10 jours, oui.
Rendez compte. Il y a pas de... C'est un trimestriel en plus, non?
C'est un semestriel.
Semestriel
deux fois par an. Mais oui.
Et l'un des deux visages masculins, c'est Edith Préto.
Et c'est même la voix de l'époque.
Ça. Expliquez-moi ça. Voix de l'époque. Je comprends que vous n'aimiez pas Dominica.
Ah oui, par rapport à ça, je trouve qu'effectivement Dominica est d'une autre époque. En réécoutant ce morceau, je me disais, si Laurie avait 25 ans aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il ferait comme musique.
Ouais, alors ça, on ne fait pas parler les morts. Hein, vous
non,
savez.
Non, mais c'est l'impression que j'ai.
L'argument.
J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un disque d'aujourd'hui, qui raconte aujourd'hui. Et qui est et qui contient des chansons d'amour qui sont incroyables, hein, qui sont incroyablement sincères, dures, un peu sales, un peu perdues, et ça me touche énormément en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que ça me touche. J'avais entendu un morceau comme ça à la radio, Kid, je crois, que je trouvais bien, mais je croyais pas forcément à la longévité et à tout un album. Pourtant, après l'avoir écouté, j'y crois doublement, même triplement. J'y crois d'abord par la musique, parce que je trouve que musicalement, les arrangements, l'écriture instrumentale est vraiment assez impeccable. Elle va chercher dans plein de choses, dans plein de genres différents. Alors évidemment, on dit beaucoup, il y a du rap, etc. Mais il y a du rap, il y a de la variété. Ça cite énormément de choses. On entend aussi, dans la voix, on entend des souvenirs de chansons françaises, j'entends un peu de Nougaro, etc. Mais surtout, j'entends surtout sa puissance à lui et ça, comment dire, son discours et sa vie à lui. Et ça c'est assez passionnant pour moi. Ce que j'entends aussi surtout, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu en français, c'est-à-dire un discours totalement queer. Et un discours d'une sensibilité. On parlait de ça un peu à propos de ça, pour Chaton tout à l'heure. Mais là, je trouve que c'est à plein. Et c'est-à-dire qu'effectivement, toute la question de la virilité, de ce que c'est qu'être un homme, de la masculinité, elle est entièrement questionnée, condensée dans ce disque-là. Alors, si je mettais un bémol, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la question de Dominica et des animaux, qu'effectivement, tout ça, Morrissey l'a aussi fait il y a 30 ans en Angleterre. Mais qu'on a sans doute mis 30 ans en France pour arriver à une telle fragilité dans un disque d'homme. Mais c'est aussi l'époque, et c'est aussi ça que je trouve très beau.
J'aurais dû commencer avec vous, Mathilde, mais je me suis étouffé. Mais c'est vrai que quand je vous dis ça, il me semble que la chanson formidable de Stromae, et là je fais pas du tout d'humour, raconte ça il y a 5 ou 6 ans. Donc la fragilité chantée en français, excusez-moi, on l'a déjà entendu.
Là,
et là vraiment,
c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose.
On parle des paroles là.
Oui, mais là, dans les paroles, on est sur le genre, sur la sexualité, sur l'amour, etc.
Non, mais et Stromae
n'est pas du tout dans ça. Stromae est dans quelque chose de comique, alors que là, on est dans quelque chose d'assez dramatique.
Formidable, c'est comique.
Formidable, c'est pas comique.
C'est pas. Stromae, pour moi, on est quand même dans quelque chose d'un peu guignolesque, alors que avec Edith Préto.
Formidable, enfin, c'est une chanson.
Alors, avec Edith Préto, on est que, oui, c'est ludique, alors que là, on est vraiment à l'os, quoi. Et on est dans ce qu'a été à un moment le rap, mais transposé à de la variété. Et ça, c'est totalement inédit.
Mathilde Serrel.
Alors, l'ouvrage dont on parlait, ça m'est revenu tout à l'heure. Hein, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. D'ailleurs, elle était récemment invitée d'Adèle Vendrette dans Un nouveau chemin de la philosophie, si vous l'écoutez. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Pardon de sa publicité de France Culture. Mais
au contraire, il faut.
Parce que c'est très bien articulé, en tout cas, sur ces ravages de ce que Edith de Préto appelle la virilité abusive, qui est développée dans le titre The Kid, tu seras viril, mon kid. Et moi, il y a quelque chose finalement d'assez littéral dans ce disque qui me gêne autant. Alors vous dites Stromae, c'était presque de grand guignolesque, pas sur la chanson Formidable. Peut-être que ça rigole un petit peu plus quand il se transforme. Justement, il a beaucoup joué le transgenre, il s'est beaucoup baladé sur la remise en question de cette codification des genres Stromae, mais de manière, je trouve, avec un plus de hauteur et d'amusement. Il y a quelque chose de fabriqué en fait chez Edith de Préto qui me dérange. Alors j'ai pas revenir sur la polémique, un article qui a été publié dans Les Échos qui a très bien expliquer comment, au fond, tout était déjà mis en place pour le succès d'Eddie Depreto.
Alors, il faut qu'on lise ça.
Oui, alors attendez.
On l'a pas lu, mais
en tout cas,
on va le lire.
Et c'est,
dans Les Échos, excellent journal.
Il paraît voilà, que les meilleurs articles musicaux, parfois, enfin, récemment, il y a eu une incursion comme ça de la presse économique pour montrer des aspects qu'on regarde assez peu, mais ces clips, trois clips déjà tournés, le premier morceau à peine fini, le P est déjà préparé. On sent quand même la fabrication, et vous l'avez dit en préambule à Arnaud Laporte, d'un phénomène.
Moi, ça marche. Hein,
moi, j'ai l'impression qu'on me propose quelque chose qui est pile poil dans l'air du temps et qui, à mon avis, ne restera pas. Ça me fait un peu l'effet d'une littérature du début des années 2000 où j'étais très emballée à la première lecture et j'appelais ça la littérature paquet de chips parce que j'y revenais jamais. Après,
revient aux chips quand même.
Il y a un point, malheureusement. Il y a un point sur lequel, en revanche, je voudrais quand même être juste avec Eddie Depreto. Je trouve que l'aspect de compléter effectivement le point de vue amoureux par des vraies chansons d'amour à l'égard d'un garçon, de parler de désir, de la cruauté, de quelqu'un qui se tire la nuit, qui va voir quelqu'un d'autre, de ce que c'est que ces rencontres sur Tinder aussi, pour un jeune garçon homosexuel, de ce que c'est qu'une banlieue, hein, c'est dans une grande allégorie qui crie sale PD, ben voilà. Ça, pour le coup, c'est un complément, c'est un angle mort qu'on n'a pas, et qu'on a avec Eddie Depreto.
En tout cas, dans le mainstream, pour parler anglais le jour de la francophonie. Sophie Rosemont.
Alors, je n'ai pas lu cet article, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelques semaines, étant donné que oui, Eddie Depreto clairement soulève une ferveur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Si on assiste à un live d'Eddie Depreto, on le comprend tout de suite. Moi, j'ai rarement vu un public aussi en amour. Oui, forcément, on va sortir des choses. C'est pas parce qu'on va pas commencer à reprocher à un artiste d'avoir des chansons prêtes depuis des années, parce qu'Eddie Depreto, ça fait quand même 10 ans qu'il a des chansons, 10, 5 ans, 4 ans qu'il a des chansons prêtes. Elle datait de, je crois, 4 ans et demi. Cet album est très important parce que d'abord, il y a un sens du tube. Sur 15 titres, il y a quand même 10 chansons très fortes mélodiquement. Les refrains sont hyper addictifs, très accrocheurs. Les arrangements dont parlait Joseph Gosse tout à l'heure sont là, c'est beau. Il écrit très bien, il chante très bien, parce qu'on pourrait quand même parler de la puissance évoquée aussi plus tôt, la puissance d'un Nougaro, d'un Brel, qu'on retrouve ici, très clairement, mêlée évidemment avec ses intonations hip-hop, bien sûr, urbaines, mais on est quand même dans une scansion que je trouve extrêmement performante et extrêmement émotionnelle, les deux en même temps. Et c'est ça, c'est Eddie Depreto. Pourquoi il séduit autant? Parce que c'est une terre de contraste. Lui aussi cultive une porosité des genres volontairement et il tombe les masques en même temps. Donc, c'est le petit garçon qui brûlait des poubelles en bas de chez lui quand il était petit et qui, 2 minutes après, montait chez la voisine du dessus pour faire du karaoké sur les Spice Girls et qui assumait ces deux situations et qui aimait ces deux situations, les retrouve dans cet album et se révèle totalement. Il se confesse totalement et ça lui fait mal. Moi, je suis hyper touchée, transportée par cet album, à la fois pour son aspect pop, qui me fait danser, qui me fait chanter, qui me fait vraiment vibrer avec la foule, que ça soit en live ou chez moi quand je l'écoute, et aussi réfléchir. La virilité, donc virilité abusive, c'est quand même des mots hyper forts. Dans Normal, vous dites, je suis complètement normal. Ces clips ont été tournés, il y en a un en tout cas qui a été tourné il n'y a pas longtemps, avec ses fans, ils sont venus, et il est sur une espèce de ring de boxe, et ses fans... l'accompagne, crie avec lui. Cette ferveur me touche, cette voix me touche, et même ce physique très singulier. Et pour l'avoir rencontré, il me disait ce que j'ai trouvé formidable dans l'accueil du public, c'est que j'ai pas une gueule de beau gosse, je suis pas un jeune premier, mais je crois que je leur apporte autre chose et que c'est pour ça que je les touche. C'est ça le charme de Depreto. Moi, je l'aime.
Vous l'aimez. Alors moi, deux choses. Essayez d'être rapide. D'abord, musicalement, je ne vois aucun intérêt à cet album, ni dans sa chanson, ni dans son écriture, ni dans ses arrangements, etc. Le chantage sociologique, je veux absolument pas rentrer dedans sur l'histoire que vous racontez. Enfin, la façon de raconter cette existence. Alors, le fait est qu'en musique, et en musique française singulièrement, on n'a pas ça. On a ça au cinéma, on a ça au théâtre, on a ça en littérature. Ça manque en musique. Alors, je pense que ça existe, sauf que ça ne sort pas ça n'a pas, bénéficie pas de sorties comme celle-ci. Il y a une scène quand même qui existe, qui est une scène qui peut être aussi LGBT, queer, transgenre, tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas accès aux grands médias. Et ça, c'est bien dommage. Mais je trouve dommage que ce soit lui qui en sorte. Moi, je partage l'avis très minoritaire d'Olivier Lame dans Libération. Je vous renvoie à son article publié qui trouve que cet album est en tout point monstrueux. Moi, je trouve qu'on ne peut pas mieux dire. Vraiment, si j'ai une c'est vrai que c'est il y a des albums qui m'intéressent pas, celui-là il m'énerve beaucoup en fait. Moi, Joseph Gauss, vous avez 10 secondes.
Moi, je trouve qu'avec entre cet album et celui de Chaton, il y a vraiment l'installation dans le paysage français de quelque chose de vraiment neuf et de quelque chose qui mêle les genres. Et c'est la première fois qu'il y a ça.
Je trouve ça très vieux et rance, même Edith de Préto, je vous assure.
Moi, je trouve que c'est au contraire, c'est queer, c'est du rap, c'est de la variété, ça mélange plein de choses. Et quand on regarde ça et Chaton, on est vraiment dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans la rue chez des jeunes gens et justement par rapport à un Dominica dont on parlait au début, c'est vraiment dans la modernité.
Je ne dis pas de comparer Dominica et Edith Préto, mais quand on parlait de phénomène et de ferveur de concert, j'ai l'impression que tous les deux mois on parle d'un nouveau groupe ou d'une nouvelle chanteuse ou d'un nouveau chanteur qui provoque ça. Donc on verra dans deux mois s'il est encore là. Il sera encore là dans deux mois, mais on n'a plus le temps, Mathilde. Bon. Et même Boris Pinot qui avait plein de commentaires à nous lire, ils étaient plutôt bons.
Ego. Moi, je vous recommande le titre Ego, peut-être. D'Edith Préto.
Alors, rapprochez-vous de mon micro. Ils étaient très bons ou pas?
Alors, il y avait un commentaire de Missa, oui, que je vous ai posé sur votre bureau, Arnaud.
J'ai fait tomber de l'eau dessus.
Edith Préto. Edith Préto, c'est l'agressivité courtoise ou l'art de frapper quelqu'un dans la gueule avec un dictionnaire. J'adore ce gars. Maurizio, toujours sur Twitter, dit d'Edith Préto qu'il est un robot construit avec l'argent du succès de Fauve.
Bon, c'est une piste intéressante à creuser,
C'est un peu complotiste.
Voilà, cure. J'avais peur que ça s'appelle cure. Alors là, j'aurais été vraiment furieux. Cure d'Edith Préto. Dans chez tous les bons disquaires et dans toutes les bonnes scènes pour sentir la ferveur. Non mais je crois sur la ferveur, Sophie Rosemont. Il n'y a aucune ironie là-dedans.
Vous n'avez pas de cœur, Arnaud Laporte.
Vous pouvez pas me dire une chose pareille, je vais me mettre à pleurer, Sophie. Bon, c'est l'heure du jeu de la dispute. Camille André est là, ce n'est plus Boris Pinot. Tout d'un coup, je me retourne et c'est Camille André qui est là avec la question du jeu d'hier soir et même sa réponse, Camille.
Combien de temps le tournage de la telenovela Errante a-t-il duré? C'était 6 jours seulement.
Oh bah ça, c'est rapide. Non, je ne ferai aucun commentaire. Non, j'avais un truc qui me venait. Des invitations pour le spectacle. Notre innocence a gagné ce soir le spectacle de Wajimouawa. Des places pour samedi 24 à 20h30 au Théâtre de la Colline à Paris, Camille.
Quelle pièce de Wajdi Mouawad fut adaptée au cinéma par Denis Villeneuve?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Demain à 19h, dispute art plastique. On sera avec Corinne Rondeau, Stéphane Correa et Frédéric Bonnet. On parlera d'images en lutte. C'était au Beaux-Arts de Paris, de Zeugma, 3 expositions de Jean-Arc Garoust et Tintoret, naissance d'un génie au Musée du Luxembourg.